Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Nous sommes tous un peu à la recherche de notre Éden, notre paradis terrestre. C'était un peu pareil pour les explorateurs qui ont sillonné les mers, pour les aventuriers qui ont parcouru les terres pendant des siècles. Ils ont tous espéré croiser ce lieu de délices, cet endroit idyllique baigné d'innocence et de simplicité primitive. Oui, là où ils étaient, leur regard se portait sur l'Éden. Cette recherche de l'Éden s'explique par ces gens qui connaissaient bien la culture chrétienne. Et par leurs récits, ils évoquent ce qu'ils ont trouvé, parfois en Asie, parfois en Amérique et souvent en Afrique. Pourtant, certains ont mis en garde contre cette vision fantasmée de ces territoires lointains. C'est le cas du général Ducrot. Ah, le général Ducrot, un de nos braves militaires, un bravage. Ceux du 19e siècle qui ont fait leurs armes en Afrique, l'Afrique qu'ils ont transformée en camp de manœuvre. En 1871, il publie « La vérité sur l'Algérie » où il évoque le Sahara, le sud de l'Algérie. Il écrit « D'exagération en exagération, le pays de la soif est devenu, sur la foi de touristes enthousiastes, de certains poètes sahariens, l'Éden de l'Afrique où, en longue caravane, arrivaient les produits féeriques du splendide Soudan. » Non, pour le général Ducrot, ce n'est pas l'Éden. Mais son objectif n'est pas de déconstruire le discours colonialiste qui fait de l'Afrique un paradis, selon la vision occidentale. Ça, c'est le travail de l'historien, car l'Afrique n'est pas un Éden dépeuplé. C'est un territoire que nous allons explorer avec un historien. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à ce rapport que nous entretenons avec la nature et notamment à la construction de la nature au sens où le regard des explorateurs, des penseurs ont construit l'imaginaire que nous avons aujourd'hui de ces grands paysages, de cette faune, de cette flore, des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et aujourd'hui, comment s'est construite la vision occidentale de l'Afrique comme paradis, comme continent vide d'hommes. Et pour nous en parler, Guillaume Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Afrique et du patrimoine environnemental. Vous êtes maître de conférence à l'université Rennes 2. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Une histoire environnementale de la nation » et plus récemment de « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain » publié chez Flammarion. Guillaume Blanc, dans le titre de votre ouvrage, il y a cette expression, ce mot, ce néologisme, colonialisme vert. En vérité, il y a un long discours autour de ce qu'est le colonialisme vert. Vous nous l'expliquez ?
Oui, or le colonialisme vert, c'est l'entreprise qui consiste à naturaliser l'Afrique par la force. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de résoudre la crise écologique, comme elles le font en Europe, des institutions comme l'UNESCO, le WWF, l'UICN, eh bien en Afrique, elles s'efforcent de naturaliser l'Afrique, c'est-à-dire de déshumaniser la nature.
Déshumaniser la nature est quelque chose qui nous intéresse grandement car cette réflexion fait écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour le prendre de manière plus simple, la notion de parc naturel est quelque chose qui traverse les continents. Nous avons des parcs naturels chez nous, nous connaissons les grands parcs naturels africains. Guillaume Blanc, vous associez cela à une longue histoire, à une histoire de la vision que les Occidentaux qui ont parcouru le monde ont pu avoir des territoires qu'ils découvrent. Vrai, à l'origine, y a-t-il eu cette recherche perpétuelle d'un Éden ? Peut-on dire que les explorateurs ont toujours quelque part été, baignés qu'ils étaient de culture chrétienne, à la recherche d'un paradis terrestre ?
Oui, la recherche du paradis terrestre, il faut bien se rendre compte que au XVIe, XVIIe siècle, même dans une certaine mesure au XVIIIe siècle, c'était quelque chose qui animait vraiment les scientifiques, les géographes, disons, de chambre, mais aussi de cabinet, mais aussi les explorateurs qui ont été persuadés de le retrouver, notamment au XVIIe siècle, dans les îles tropicales, Maurice, dans les Mascareignes, et en fait, ils ont étaient persuadés un moment de le retrouver, et en Afrique, au XIXe siècle, ils ont cru un moment le retrouver, et même si la recherche, disons, de l'Éden, vraiment comme un territoire qui pourrait exister, cette recherche s'est arrêtée au XIXe siècle, mais dans une forme, disons, culturelle, Les colons européens au XIXe siècle ont été persuadés de retrouver en Afrique la nature qui avait disparu chez eux. Et puisque cette nature n'existait pas, eh bien ils ont aussi essayé de la recréer en Afrique.
Oui, c'est ce cheminement qui nous intéresse parce que Guillaume Blanc, vous évoquez ces explorateurs du XVIe siècle et c'est vrai que nous associons facilement le paradis terrestre, la nature sauvage aux îles découvertes, à ces territoires qui aujourd'hui encore hein, nous font rêver. Comment s'est opéré ce glissement? Comment ces îles qui ont pu être perçues comme un paradis sur Terre ont été écartées de la notion de paradis? Trop exploitées par les hommes? Oubliées?
Oui, en fait, c'est là le grand paradoxe, c'est que l'écologisme et le capitalisme sont allés main dans la main. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, quand les premières opérations, disons, de colonisation de ces îles sont accentuées, eh bien, en fait, la prédation est allée main dans la main avec cette découverte du paradis qui était perdu, puisque la déforestation est allée croissante, pour l'approvisionnement des navires en bois, en eau, pour la mise en culture des terres. Et c'est là qu'en fait des premiers scientifiques, alors essentiellement des botanistes, eh bien ont alerté les autorités coloniales, surtout au XVIIIe siècle, en demandant à ce qu'il y ait des opérations de conservation, donc c'est-à-dire des canaux d'irrigation, des réserves forestières pour contrôler cette dégradation. Mais le problème, c'est que les Européens n'ont pas été capables à ce moment-là de se rendre compte que les dégradations écologiques auxquelles ils assistaient étaient dues à leur présence. Et à la place, ils ont blâmé les populations, entre guillemets, locales, en mettant en garde contre leurs pratiques qui auraient été destructrices, alors que ce qui détruisait, eh bien, c'était l'exploitation à grande échelle de la nature. D'où, c'est la belle expression de l'historien Richard Grove, qui est maintenant décédé, que l'Éden fut trouvé lorsqu'il était perdu. C'est-à-dire que la nature a dû être protégée sur le seuil de sa disparition, au moment où elle commençait à être détruite. Et cette opération a basculé ensuite en Afrique, au XIXe siècle, où l'histoire s'est répétée.
Voilà, l'histoire s'est répétée quand les Occidentaux ont constaté que ces îles qu'ils avaient rêvées comme étant un paradis terrestre ne l'étaient pas, puisqu'elles étaient abîmées. C'est vrai que cette conscience de détruire l'environnement existe déjà au XVIIIe siècle. On va retrouver ça à Madagascar, par exemple. Le regard se tourne vers l'Afrique, mais dans cette définition d'Éden, nous le sentons bien, Guillaume Blanc, il y a la recherche de la nature à son état sauvage, la nature première, et c'est en cela que cette notion d'Éden est pertinente. C'est pas tant l'endroit où il est si agréable de vivre que de dire ici le territoire est préservé.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, il faut se remettre dans l'esprit de ces Européens partis tenter leur chance en colonie, on va dire, en Afrique, fin 19e siècle. Ils laissent derrière eux des paysages qui sont sur le vieux continent radicalement transformés par l'urbanisation, par l'industrialisation. Et ils arrivent, alors là c'est essentiellement en Afrique de l'Est, ils arrivent dans des territoires qu'ils vont, eux, associer à l'Éden, puisqu'ils vont penser que ce territoire est vide. Alors, en l'occurrence, ce territoire n'est pas vide. Il y a ce qu'on a eu, fin 19e siècle, ce qu'on a appelé des catastrophes biopolitiques. C'est-à-dire que les Européens importent sur la côte australe africaine, et la côte orientale surtout, ils importent du bétail venu d'Inde, mais qui se retrouve infesté par la peste. Et donc, on a une épizootie, donc une épidémie, mais pour les animaux, qui va décimer d'abord les troupeaux, et donc les troupeaux s'effondrent, la savane repousse, et puis cette épizootie, bah, nous sommes bien placés aujourd'hui pour le savoir, peut se transmettre aux humains, et donc épidémie, sauf que là, les populations humaines vont migrer, vont essayer de s'adapter à cette crise, et donc vont quitter de nombreux territoires en Afrique de l'Est. Eh bien, les colons vont être encore plus confortés dans l'idée qu'ils avaient de l'Afrique. Pour eux, c'est tout à fait certain, ce continent est vide, vierge, il est naturel. Et c'est dans ces zones qu'on retrouve aujourd'hui les parcs nationaux hein, du Kenya, de Tanzanie, ceux-là même où le roi lion, dont le roi lion s'est inspiré pour tourner ces images ensuite de synthèse. Mais cette Afrique n'était pas vide, elle a été vidée. Et ensuite, les parcs nationaux, qui étaient d'abord des réserves, ont reproduit, en fait, ont concrétisé cet idéal d'une nature vierge. Mais le problème, c'est que cette Afrique n'a jamais existé. Elle n'existe pas. Et le problème, c'est d'être persuadé du contraire.
Voilà, être persuadé du contraire, Guillaume Blanc, il y a ce double mouvement que vous nous expliquez. Alors, un mouvement qui est conjoncturel, lié à des maladies, lié à des déplacements de population, qui fait qu'effectivement, certains territoires sont dépeuplés au sens où ils perdent une partie de leur population, mais il reste toujours des gens malgré tout. Et il y a le regard des Occidentaux qui ne voient pas en fait les populations locales. Leur intérêt ne se porte pas sur ces populations-là. Et cette négation en fait de l'existence de gens sur ces territoires et peut-être le manque de connaissances sur la manière dont ces populations s'occupent de leur territoire, fait que dans une certaine conception de la colonisation, les populations locales ne sont pas nécessaires pour la nature.
Non, et non seulement elles ne sont pas nécessaires, mais on va retrouver le même processus que celui qui avait eu lieu sur les îles tropicales, c'est-à-dire que la colonisation a amené à une exploitation sans précédent des sols, de la faune, de la forêt. On a quelques chiffres qu'on connaît quand même. Entre 1850 et 1920, en Afrique et en Asie, c'est environ 95 millions d'hectares de forêts qui vont être rasés pour la mise en culture des terres. C'est 4 à 5 fois plus qu'au siècle précédent. La colonisation accélère aussi la chasse, la prédation. On a environ 65 000 éléphants par an qui vont être abattus fin 19e siècle pour le commerce de l'ivoire. On a aussi les collecteurs de faune, donc des naturalistes hein, qui sont des prédateurs. Un naturaliste allemand peut envoyer jusqu'à 300 zèbres par mois au Muséum naturel d'histoire de Berlin en 1895. Et là encore, les colons ne vont pas réaliser que c'est leur présence qui cause ces dégâts écologiques sans précédent. Ils vont blâmer les populations colonisées et ils vont justement créer des réserves de chasse d'abord dans lesquelles ils vont priver les Africains du droit à la terre et ces réserves seront converties dans les années 1930 pas dans des parcs nationaux, mais avec toujours cette même idée que les Africains sont responsables de la dégradation de la nature africaine.
Guillaume Blanc, pour illustrer votre propos, je vous propose d'écouter une archive qui vient de l'émission Connaissance des bêtes en avril 1971. Cette émission s'intéressait aux braconniers en Afrique.
Les sécheresses, les inondations font déjà dans la faune animale des territoires africains un nombre considérable de victimes chaque année. Le parc national, en créant des réserves pour ces animaux, réussit à sauver beaucoup d'entre eux. Mais jusqu'à l'intérieur même de ces réserves, s'évite un fléau aussi meurtrier, même s'il est à moins grande échelle, il s'agit du braconnage. En effet, un véritable marché noir de défense d'éléphants et de cornes de rhinocéros s'est installé en Afrique, faisant d'innombrables victimes, utiles ou inutiles, à ce commerce honteux. Des hommes, moyennant des sommes dérisoires, se prêtent à ce travail de braconnage, qui profitera bien sûr à cette énorme mafia. Une lutte sans merci est engagée depuis longtemps contre ces brigands, mais chaque jour, malgré les peines sévères qu'ils encourent, de nombreux braconniers font surface. Chaque jour, on retrouve des dizaines et des dizaines de bêtes mortes prises dans ces pièges mortels.
Intéressante archive de 1971 dans l'émission Connaissance des bêtes où il est question de la protection de la faune animale en Afrique, où les motifs évoqués pour expliquer la disparition de la faune sont des conditions climatiques, la sécheresse ou alors le braconnage. Jamais il n'est évoqué la déforestation et puis même la chasse faite par ceux qui viennent faire du tourisme un peu carnassier. Guillaume Blanc, c'est cette lecture-là en fait qui va asseoir la nécessité pour certains de mettre en place des parcs, parce que sinon, il n'y aurait plus d'animaux.
Oui, et c'est là où c'est une archive passionnante, puisque on le voit bien, on a deux choses. On a à la fois l'idée donc de cette lutte ou de ce braconnage qui se serait installé en Afrique. La formule est intéressante et mérite réflexion. Non, ceux qui ont créé des réserves de chasse, donc les premières, c'est en 1892, ce sont des chasseurs. C'est-à-dire que face à la disparition de la grande faune, ils ont créé des réserves de chasse. Et ces mêmes chasseurs ont été affublés d'un surnom, les chasseurs repentis, les bouchers. repentis, dans les années 1930. Et ce sont ces mêmes chasseurs qui ont demandé la conversion des réserves de chasse en parcs nationaux, donc des sanctuaires dédiés à la faune animale. Et oui, le braconnage, bien entendu, a toujours continué. Mais là, il faut bien faire attention aux termes. Est-ce qu'on parle de braconnage pour la grande faune, qui est quelque chose contre lequel il faut lutter, et contre lequel la lutte est aujourd'hui encore plus que nécessaire? Mais après, il y a aussi la chasse. Et cet amalgame entre le braconnier et le chasseur est extrêmement intéressant, dans le sens où le braconnier, enfin, si je peux me permettre, c'est l'invention du bon et du mauvais chasseur qui se retrouve dans le contexte colonial du début du XXe siècle. Le bon chasseur était l'homme blanc qui chassait le trophée avec bravoure, et le mauvais chasseur était le braconnier noir qui chassait la nourriture avec cruauté. Et cette image, en fait, s'est perpétuée, et on a du coup un amalgame permanent qui s'est renforcé depuis les années 60 entre ceux qui chasseraient du petit gibier pour se nourrir, qui seraient les mêmes que les grands braconniers qui chasseraient pour l'ivoire, pour les peaux de bêtes. Et cet amalgame est à l'origine de toutes les politiques coercitives qui sont mises en place dans les parcs nationaux pour les préserver justement de ces populations africaines. Donc c'est intéressant de voir qu'il faut le relier à l'histoire, mais à quel point aujourd'hui cette image est encore ancrée dans nos représentations entre le braconnier qui serait finalement le lot commun de toutes les campagnes africaines.
C'est entré dans nos représentations, dites-vous, Guillaume Blanc, et effectivement, le premier chapitre de votre ouvrage, L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, ce premier chapitre s'intitule « Déconstruire nos croyances », parce que vous évoquez les amalgames, en l'occurrence à propos des chasseurs, ces amalgames pourraient également être appliqués pour l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculteur, le bon agriculteur, c'est celui qui travaille dans des plantations ou qui a un petit lopin de terre, mais sur un territoire accordé, alors que ceux qui continuent, qui poursuivent, une agriculture vivrière qui nécessite peut-être de la déforestation, peut-être de brûler quelques broussailles, alors celui-là est mal perçu.
Oui, et là on voit vraiment qu'il y a un lien. Alors on a des croyances scientifiques, donc qui ont débuté fin 19e, par exemple le mythe de la forêt primaire, alors que les forêts primaires n'existent quasiment pas plus sur le continent européen que le continent africain, mais on a ce mythe néo-malthusien d'une Afrique qui aurait été d'abord boisée quasiment entièrement et ensuite dégrossie, morcelée, déboisée par des populations destructrices. Et puis ces croyances vont être relayées du coup par des mythes, on va dire, ou des produits culturels. Enfin, pensons des récits de Stanley Livingstone jusqu'aux chasses de Roosevelt, Churchill et puis Out of Africa de Karen Blixen, enfin, qu'on connaît nous sur le nom La Ferme Africaine, et puis Romain Gary, Les Racines du Ciel, où c'est quand même le prix Goncourt de 56, où on a tout cet humanisme caractéristique des romans de Gary, mais cette même idée selon laquelle les Africains, eux, par pauvreté, par fatalisme, seraient forcément condamnés à détruire. Alors que, disons les choses clairement, on a 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers africains qui ont été expulsés des parcs nationaux en Afrique au XXe siècle. Ce processus d'expulsion peut continuer aujourd'hui. Dans un des parcs que j'ai étudié, notamment en Éthiopie, sur le nord des Hauts Plateaux, c'est en 2016 que, sur les recommandations de l'UNESCO, l'État éthiopien a expulsé 2500 agro-pasteurs, donc agriculteurs et bergers. Mais voyons les choses en face. Ces populations qui sont expulsées sont des agriculteurs qui vivent d'une agriculture de subsistance, donc qui produisent leur nourriture. Ils se déplacent à pied. Ils vivent sans électricité. Ils ne consomment quasiment jamais de viande ou de poisson, n'achètent quasiment jamais de nouveaux vêtements. Contrairement à 2 milliards de personnes sur la planète, n'ont ni smartphone ni ordinateur. Et c'est à eux qu'on s'en prend pour lutter contre la crise écologique, alors que ces agriculteurs et bergers ne participent pas à la crise écologique. Donc, on a vraiment, c'est pour ça que dans le livre, finalement, je suis passé par l'histoire presque par défaut. Il faut vraiment puiser dans l'histoire pour comprendre d'où nous vient cette représentation à la fois d'une Afrique vierge et naturelle et cette représentation de l'Africain qui, presque par défaut, serait voué à dégrader cette Afrique. Eh bien, c'est l'histoire qui nous permet de voir clairement cette erreur, en fait, de représentation sur l'Afrique.
Et bien justement, dans ces représentations sur l'Afrique, vous l'avez évoqué, Guillaume Blanc, la littérature, la fiction, le cinéma sont essentiels. Quand vous parlez de Out of Africa, bien sûr, nous pensons au film de Sidney Pollack en 1985, mais il y a, et vous l'avez dit, l'ouvrage de Karen Blixen, La ferme africaine, c'est la traduction française, en 1937. Moi, je vous propose la scène d'ouverture du film Out of Africa.
Il emportait même le gramophone en safari. Trois fusils, des provisions pour un mois et Mozart. Il inaugura notre amitié par un cadeau. Et plus tard, peu de temps avant Tsavo, il m'en offrit un autre, un incroyable cadeau. Un aperçu du monde à travers l'œil de Dieu. Et je pensais, oui, je vois, c'est bien ainsi que cela fut conçu. J'ai écrit sur tous les autres, non pas parce que je les aimais moins, mais parce qu'ils étaient plus clairs, plus simples. Lui, il m'attendait là-bas. Mais là, je devance mon histoire, et cela lui aurait déplu. Denis aimait à écouter une histoire bien menée.
Une histoire bien menée, c'est la scène d'ouverture qui ouvre ce film Out of Africa de Sidney Pollack en 1985. Guillaume Blanc, il est essentiel de rappeler combien la vision occidentale de la nature en Afrique, qui a été véhiculée par tous ces récits de voyage qui ont connu un immense succès au 19e siècle et encore au 20e siècle, est soutenu par toute une littérature qui façonne notre lecture de l'ailleurs.
Oui, exactement. Ce besoin d'ailleurs, ce besoin de nature, il est aujourd'hui, il est si omniprésent sur l'Afrique qu'on ne s'en rend même plus compte. Mais qu'on prenne, je parlais des racines du ciel, mais qu'on prenne la suite, que ce soit le National Geographic, le Lonely Planet, le Roi Lion, qui est en fait d'ailleurs inspiré d'un manga écrit dans les années 50. En fait, tous ces produits culturels, littérature, cinéma, nous décrivent une Afrique verte, vierge, sauvage. Mais, et là on le voyait bien dans l'extrait que vous avez diffusé d'Out of Africa, c'est une Afrique sans Africains. C'est une Afrique telle que Dieu l'aurait créée, pour reprendre là les paroles de celle qui incarnait Karen Blixen. Le problème, je le répète encore, c'est que l'Afrique, comme l'Europe, elle est habitée, elle est cultivée, mais nous sommes persuadés du contraire. Et la scène dans Out of Africa, donc ça se passe au Kenya. Mais en fait, on a ces grandes réserves, alors Maasai Mara côté kényan ou le Serengeti côté tanzanien pour le Kilimandjaro. Les parcs et les réserves qui sont décrites ici, elles ne sont pas vides, elles ont été vidées de leurs habitants. Et c'est bien cela le problème de ce mythe de l'Éden africain qui nous conduit encore aujourd'hui à croire que l'Afrique est naturelle. Mais cette idée, elle est aussi absurde que celle selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez rentré dans l'histoire. Et il faut réussir à le regarder sereinement, et l'histoire nous aide à cela, à reconnaître en fait cette erreur de représentation, mais qui est si omniprésente qu'il est bien difficile aujourd'hui encore de la remettre en cause.
Oui, c'est bien difficile de la remettre en cause, effectivement, parce que ces productions littéraires, mais qui nous plaisent, il faut pas le nier, qui nous font rêver, sont en écho à ce que nous vivons dans nos pays, que nous vivons, que ce soit en Amérique, en Europe. Il y a cette réflexion qui fait que Le cas des États-Unis, par exemple, est essentiel avec la mise en place de parcs naturels. Cette protection de sauvegarder des espaces, alors vierges sans doute pas, mais qui ont une marge de tolérance parfois. Je pense notamment à ces parcs dans les Alpes que nous avons, où il y a la conscience que les bergers ont toujours été là. Et donc, il faut intégrer ces populations à ces parcs. La réflexion des parcs vaut tant pour l'Afrique que pour nos pays.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Les deux sont indissociables. Plus, si cette Afrique naturelle est fantasmée, en fait, plus la nature a disparu, notamment en Occident, plus nous l'avons fantasmée en Afrique. Et c'est-à-dire que face à l'incapacité à sauver la nature que certains détruisent chez eux, alors ils veulent la sauver là-bas, dans ce qu'ils croient être une nature vierge, sauvage. Mais sur la comparaison justement entre nos pays, par exemple la France, ça a été un peu le déclic qui m'a donné envie, moi, d'écrire ce livre, c'est que j'ai notamment étudié le parc national des Cévennes en France. Ce parc, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est reconnu patrimoine mondial parce que, et donc je vous cite les archives de l'UNESCO et de l'État français, parce que l'agro-pastoralisme, donc les agriculteurs et les bergers, auraient façonné le paysage depuis 3000 ans. Et c'est ce qui mérite aujourd'hui une protection de ces agro-pasteurs. Alors que, par exemple en Éthiopie, le parc du Sémien, qui est lui aussi un paysage agro-pastoral, eh bien l'UNESCO, dans les mêmes archives, eh bien explique que l'agro-pastoralisme détruit la nature et menace la valeur naturelle du bien. Et en fait, on a donc deux histoires. Face à un même paysage agro-pastoral, on a des histoires d'adaptation, et ce sont des histoires européennes, et on a des histoires de dégradation, et ce sont des histoires africaines. Et là, l'histoire nous aide à comprendre pourquoi ces histoires existent, alors que en Afrique comme en Europe, ce qu'il faut bien préserver, surtout aujourd'hui, face à l'ampleur inédite de la crise écologique, c'est les voies de la sobriété, sont les voies de la sobriété écologique. Et des agriculteurs et des bergers éthiopiens ou français nous y mènent. Mais on a deux histoires, l'adaptation d'un côté, la dégradation de l'autre. Et ces histoires, bien le passé pèse profondément sur le présent pour justement que ces histoires continuent à être malheureusement audibles aujourd'hui encore.
Oui, parce que rendre audibles les choses est difficile face à ces représentations que nous avons, qu'il faut déconstruire, mais c'est un travail à faire, un travail délicat, un travail, c'est vrai, qui est dur quand on a face à nous des grands auteurs comme Ernest Hemingway, par exemple. Si je réfléchis encore à combien la littérature nous a imposé l'image d'une Afrique vierge et débarrassée de sa population pour ne garder en fait que les neiges du Kilimandjaro, c'est la nouvelle d'Ernest Hemingway, écrite en 1936, c'est également Kilimandjaro, la chanson de Jean Danel.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Une fois là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro. Ooh.
Dandanelle qui chante les neiges du Kilimandjaro. Le Kilimandjaro en Tanzanie et dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Somaya Dabesh. Nous entendons cette chanson de Jean Danelle, les neiges du Kilimandjaro vont faire un blanc manteau, il va mourir bientôt. Guillaume Blanc, cette réduction du patrimoine naturel africain à quelques éléments tels que le Kilimandjaro, c'est la savane qui font rêver, et une vision qui fige l'Afrique est un véritable problème que nous entendons régulièrement, c'est-à-dire l'Afrique n'a plus le droit, l'Africain n'a plus le droit d'occuper son territoire, il doit le préserver. En réalité, les hommes et les femmes qui vivent en Afrique ont toujours peuplé leur territoire, s'en sont toujours occupés. Est-ce que vous diriez qu'ils se voient dépossédés de leur propre patrimoine naturel ?
Alors, j'allais vous dire oui et non. Oui, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, c'est entre 1 à 14 millions de bergers, d'agriculteurs qui ont été expulsés des parcs nationaux africains au XXe siècle. Aujourd'hui encore, des dizaines de milliers sont expulsés pour vider les parcs et surtout des millions sont punis d'amende ou de peine de prison pour avoir cultivé la terre, fait paître leurs troupeaux. Mais la dépossession, et c'est là où j'insiste dans le livre sur le colonialisme vert, ce processus ne marcherait pas sans une dépossession qui fonctionne sur l'alliance entre des experts et des institutions internationales et les dirigeants des États africains, puisque, alors, pour les experts, les institutions, il y a ce dont nous avons discuté, ce fantasme d'un Éden africain, d'une Afrique à naturaliser, mais pour les États africains, il s'agit à la fois de générer des revenus touristiques, donc la manne financière qu'offrent les parcs nationaux, mais il s'agit aussi, comme ça a été le cas aux États-Unis ou même en France, les parcs nationaux permettent aux États de planter le drapeau dans des territoires qu'ils peinent à contrôler. Ce n'est pas pour rien si les parcs nationaux en Afrique, et comme ça a été le cas, je le répète ailleurs, sont créés chez les nomades, dans des territoires sécessionnistes, aux frontières. Ça permet finalement, les États africains vont bénéficier des fonds et de la légitimité des institutions internationales pour contrôler ces territoires. Le problème, c'était le cas à l'époque coloniale, c'est le cas depuis les années 60, c'est que cette alliance entre l'expert et le dirigeant, l'habitant, lui, est toujours perdant. Et donc l'habitant, lui, est généralement dépossédé de cette nature, soit de manière très concrète par l'expulsion, soit de manière plus symbolique, avec une interdiction, finalement, de cultiver la terre, et même une domination morale, une éthique, selon laquelle les paysans africains ne sauraient pas prendre soin de la nature.
Oui, et cette réflexion, effectivement, nous la retrouvons régulièrement. Je vous propose d'écouter ce que disait Philippe Poiret, qui était alors président du WWF France. C'était en août 1990 sur la troisième chaîne de la télévision française.
Et en Afrique, l'objectif principal, c'est de faire comprendre aux Africains que leur principale ressource, leur principale richesse, enfin une de leurs principales richesses, ce sont leurs animaux, ce qu'ils représentent, à la fois comme ce qu'on appelle la biodiversité, qui est essentielle à la survie d'une économie et d'une agriculture, oui, mais aussi la richesse touristique qui amène des tas de gens dans ce pays. Et il faut absolument que ces espèces restent en vie, et elles ont malheureusement été détruites par la chasse un petit peu, mais c'est pas ça le plus grave, par les braconniers surtout, par l'énorme braconnage, on parlera peut-être de l'ivoire, c'est un problème capital. Mais aujourd'hui, notre idée en Afrique, c'est nous avons 130 programmes en Afrique, dans plus de 25 pays d'Afrique, et ce sont soit des programmes d'éducation. Nous avons créé par exemple à Garoua l'école de la faune qui permet de faire comprendre ce qu'il faut faire aux Africains eux-mêmes pour protéger leurs richesses.
Les Africains très très jeunes ou les Africains de tout âge ?
Les Africains de tout âge, mais enfin bien sûr c'est la jeunesse en général qui est le plus sensible à tout ça.
Oui, bien sûr, c'est la jeunesse la plus sensible à tout ça. Faire comprendre aux Africains, dit Philippe Poiret, donc président du WWF France. Guillaume Blanc, quelle réaction pouvez-vous avoir à l'écoute d'une telle archive ? Faire comprendre aux Africains comment protéger la nature ?
Eh bien, c'est tout à fait dans l'esprit finalement du WWF. C'est-à-dire que on n'est plus dans la logique de la colonisation où il y avait le fardeau civilisationnel de l'homme blanc avec des théories racistes. On n'est plus du tout là-dedans. Mais on est, c'est depuis les années 60, dans le fardeau écologique de l'expert occidental. Donc certes, l'intention a changé, mais pas l'esprit. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Et là, il faut vraiment revenir à l'histoire. Comment est né le WWF? C'est en 1960, quand les indépendances africaines deviennent inéluctables, eh bien, on a une institution, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui lance, avec l'UNESCO et d'autres agences des Nations unies, ce qu'ils appellent un projet spécial pour l'Afrique. Et en fait, ce sont d'anciens administrateurs coloniaux, reconvertis en experts internationaux, qui vont imaginer la création d'une banque. Et cette banque, et là je vous cite les archives, doit faire face à ce qu'ils appellent l'africanisation des parcs africains, donc c'est-à-dire l'indépendance. Eh bien, cette banque, elle est créée en 1961 pour financer la reconversion de ces experts, de ces administrateurs coloniaux en experts internationaux. Cette banque s'appelle le Fonds mondial pour l'environnement, World Wildlife Fund, le WWF. Et certes, aujourd'hui, le discours n'est plus le même. En 1960, moi, dans les 30 à 40 000 pages d'archives que j'ai pu consulter, là, on avait vraiment, c'était l'esprit encore colonial, où on a des experts de l'UNESCO, du WWF, qui écrivaient « La démocratie ne nous menace pas dans tel pays, nous pouvons encore expulser ». Bien entendu, le discours n'est plus le même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les consultants internationaux recommandent le départ volontaire des habitants, la conservation dite communautaire. Donc oui, le discours est policé, mais il cache le fait que seuls les mots du pouvoir ont changé. Si en Europe, ces experts valorisent l'harmonie entre l'homme et la nature, en Afrique, ils estiment toujours que les parcs doivent être vidés d'habitants qui seraient des êtres malhabiles, destructeurs. Donc on est dans une logique, comme le révèle l'archive que vous venez de montrer, plutôt paternaliste. Et j'allais dire, ce n'est pas l'origine coloniale ici qui compte. Ce qui est grave, c'est que cette archive date de 1995, mais elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est là que c'est important de faire appel à l'histoire pour comprendre comment ce discours reste audible aujourd'hui et non pas choquant, car il l'est.
Alors l'archive date de 1990, mais ça ne change absolument
Oh, pardon.
Rien, Guillaume Blanc. Mais malgré tout, j'entends votre propos, et puis pour avoir lu votre livre « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain », vous mettez en cause les institutions internationales. Et ce n'est pas étonnant, j'ai envie de vous dire, qu'il y a des réponses. C'est une tribune publiée dans le journal Le Monde, le 1er novembre 2020, donc c'est juste là. Une tribune d'Ernesto Otoné Ramírez, qui est le sous-directeur général de l'UNESCO, qui dit bien, ce n'est pas l'habitude de l'UNESCO, donc de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, de répondre à une polémique. Et il vous accuse, mais le mot est trop fort, il veut nuancer votre propos, bon, qu'il considère fantaisiste, en disant non, l'UNESCO œuvre pour les populations dans ces parcs. En Afrique, il dit, il y a jusqu'à 21 millions d'habitants dans ces parcs africains, donc ce ne sont pas des parcs vidés de leur population. Sincèrement, en lisant votre livre et puis en réfléchissant, en lisant la tribune d'Ernesto Otoné Ramírez, je me disais que l'idée reste la même, ce cheminement de réflexion sur qu'est-ce que la nature en Afrique est la même. Les voix vous séparent, mais le débat est là. C'est un débat sans nuance, un débat qui s'oppose, où il y a un cheminement commun possible.
Alors, très sincèrement, j'espère qu'il y a un cheminement possible, mais ce qui est drôle, c'est que le sous-directeur quand même de l'UNESCO réponde à ce livre au bout de 2 mois après sa publication. La première chose, il y a 1 mois et demi, l'UNESCO et le WWF avaient répondu à l'AFP que mon livre reposait sur des accusations injustes, infondées. Si c'était le cas, ils pourraient très bien m'attaquer en diffamation. Bon, ça serait impossible puisque je m'appuie exclusivement sur leurs archives pour raconter cette histoire. La deuxième chose, ce qui moi j'ai trouvé plus choquant dans cette tribune, c'est encore une fois l'impossibilité de parler de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Le discours est très bien dans cette tribune en disant que l'UNESCO valorise l'habitation, mais dans quelles conditions vivent les populations dans ces parcs ? Toutes les études montrent que ces populations sont en Éthiopie, dans les parcs nationaux, les populations deviennent essentiellement mendiantes. C'est-à-dire que depuis les années 90, la conservation communautaire est bien fait que maintenant, beaucoup d'enfants, par exemple, arrêtent d'aller à l'école depuis une trentaine d'années pour mendier auprès des touristes. Dans d'autres parcs, comme en Namibie, les populations n'attribuent plus une valeur sacrée à la grande faune, mais une valeur monétaire, c'est-à-dire proportionnelle à l'attrait touristique d'un animal. Quid d'une période de pandémie ? Quand il n'y a plus de touristes, quelle est cette valeur ? Voilà l'une des conséquences de la conservation communautaire. Moi, ce que j'espère, peut-être de manière très utopiste, c'est que l'UNESCO fasse exactement ce qu'ils font en Europe, en Afrique. C'est-à-dire qu'ils valorisent les populations, oui, mais qu'ils valorisent très concrètement l'agriculture, le pastoralisme, qui nous mène à une voie de sobriété écologique. C'est-à-dire que l'UNESCO, parce qu'ils le disent dans cette tribune, mais il faut là encore, malheureusement, les archives ne mentent pas. En 2016, encore en Éthiopie, l'UNESCO peut écrire que les agriculteurs et les bergers menacent la valeur naturelle d'un bien et doivent être déplacés. Non, pour résoudre la crise écologique, cela fait 60 ans que cette erreur dure, il faut reconnaître, un, que les agriculteurs et les bergers continueront d'être agriculteurs et bergers, et ce qu'il faut, c'est bien les soutenir, que ça soit en France, comme en Éthiopie, en Europe, comme en Afrique, pour trouver une voie vers la coévolution entre les humains et les non-humains. Et pour finir sur cette tribune, quand le vice-directeur de l'UNESCO dit « ça n'est pas sérieux », mon livre n'a rien de nouveau en sciences humaines et sociales. C'est loin d'être un cas isolé. C'est simplement que là, j'ai essayé de, même si le terme est très mal choisi, mais de vulgariser pour que ce thème soit plus connu. Mais des centaines et des centaines d'études montrent ça. Donc oui, c'est très sérieux. Et il est urgent de soutenir justement cette coévolution entre humains et non-humains plutôt que de croire que la nature existe là où il n'y a pas d'homme. Mais on peut espérer que les choses sont en train de changer, puisqu'il y a quand même beaucoup de réformes. Mais il est urgent que ces réformes passent à un changement de paradigme.
Vous évoquez, Guillaume Blanc, cette coévolution entre humains et non-humains, et la tribune écrite par le sous-directeur général de l'UNESCO évoque cela aussi, loin de chercher le retour à l'Éden vert. Des centaines de programmes témoignent de ces tentatives d'inventer une relation durable entre les humains et leur environnement. Et c'est en cela que je disais qu'il y a un objectif sans doute commun, mais c'est cette relation à inventer, non pas réinventer une relation à l'environnement de la part des populations qui vivent en Afrique, c'est juste inventer ou renouer avec ce qui existe déjà, parce que le contexte a radicalement changé, nous le savons bien, et que entre la volonté de protéger et puis le souci des bien-être des populations, il faut trouver une voie qui est très difficile à dénicher. C'est extrêmement compliqué, cette question-là, parce que il faut malgré tout protéger. On va vous répondre ça. Si on laissait les populations faire dans un monde de mondialisation, très vite, les forêts vont être détruites.
Alors, je vous comprends, et en même temps, j'aimerais quand même ajouter qu'il y a, dans ce cas, si on parle des efforts qui seraient à fournir, un, ça serait des études scientifiques localisées. Le mythe de la forêt primaire dont nous parlions au début, ce mythe qui a été inventé début XXe siècle et qui s'est consolidé dans les années 60. Rendons-nous compte, on parle par exemple en Afrique de l'Ouest, au Gabon, Afrique centrale dans ce cas, Gabon, Sierra Leone, où des grandes institutions internationales comme la FAO donnent des chiffres comme quoi 90% de la forêt aurait disparu. En Éthiopie, on nous dit que le couvert forestier serait passé de 40% à 3%. Là encore, c'est des chiffres de la FAO, une agence des Nations Unies. Ces chiffres sont repris par Al Gore, et c'est notamment pour son combat qui reçoit le prix Nobel de la paix en 2007. Mais J'insiste, ces chiffres n'ont aucune assise scientifique. Les écologues, ceux qui ont mené des études localisées dans ces zones-là, ont bien montré que ces chiffres étaient totalement faux. Et en fait, ces chiffres sortent d'observations visuelles des années 60. Mais ces chiffres dictent encore aujourd'hui des politiques environnementales. C'est la première chose. Et la deuxième chose, comme vous dites, on va pouvoir reprocher, oui, mais dans des parcs, au moins la nature est protégée. Mais là encore, observons les faits. Prenons le coût écologique d'une visite d'un parc national en Afrique. Un randonneur sera équipé d'une tente avec des bâtons en aluminium, extraction de bauxite, d'une veste en Gore-Tex, du téflon, d'une polaire, des résidus de pétrole, d'un trajet en avion, 0,5 tonnes de CO2, d'un smartphone généralement, c'est-à-dire du néodyme de Chine, du tantal, du Congo. Osons le dire, même si c'est choquant, visiter un parc national africain équivaut à détruire dans le monde les ressources qui sont mises en parc dans ces parcs. Et c'est en fait ça le vrai problème des parcs nationaux. Et là encore, je ne suis pas le seul à le montrer. Hein. Depuis 30 ans, beaucoup d'historiens l'ont montré. Cela fonctionne davantage comme des trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'en croyant que la nature est protégée ici, on s'exonère des dégâts qu'on cause ailleurs. Alors que l'idéal serait de protéger partout. Mais ça permet de faire perdurer le système en se disant, certes, nous dégradons quasiment partout, mais nous mettons en parc ici. Non, c'est partout qu'il faut lutter contre la destruction massive de l'environnement et dans les parcs ne permettent pas cette lutte. Mais par contre, ils nous permettent, malheureusement, de croire que nous luttons efficacement alors que socialement et écologiquement, les parcs ne remplissent pas en fait cette mission. Et là encore, l'histoire permet de le voir sereinement, même s'il y a urgence.
Même s'il y a urgence, Guillaume Blanc, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Et nous apprécions tous dans le cours de l'histoire, évidemment, vivement que vous souligniez combien ce rappel à l'histoire est important. Et puis vous avez utilisé ce mot de vulgarisation. Bah oui, l'histoire est essentielle dans le débat public, et notamment ce débat lié à la préservation des espaces et puis aux populations de ces pays-là. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à écouter Pascal Danel qui chante Les Neiges du Kilimandjaro et que j'ai honteusement appelé Jean tout à l'heure. Mais non, nous aimons toujours Les Neiges du Kilimandjaro avec la lecture que vous nous offrez de L'invention du colonialisme vert. Merci beaucoup Guillaume Blanc. Il est l'heure maintenant dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Ce matin, dans le journal de l'histoire, la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 et l'islam.
En janvier 1897, le premier député musulman fait son entrée à l'Assemblée nationale. Élu de Pontarlier, Philippe Grenier, né catholique et converti en Algérie, fait sensation avec son burnous blanc qui tranche sur la foule des redingotes coutumières du lieu. On se moque, on le caricature copieusement, jusqu'au char du carnaval de la mi-carême qui le représente en majesté sur un char entouré de jeunes femmes attifées à l'oriental, de cet Orient que l'on connaît si mal malgré son intégration forcée dans l'Empire colonial.
Que se passera-t-il à Paris quand sonnera la cinquième heure du soir, s'il fait chez nous ce qu'on l'a vu faire à Pontarlier, s'il descend tout nu dans la Seine, comme il descend même l'hiver dans le Doubs pour ses ablutions? Enfin, le Parlement a vu un sénateur en vêtements bretons, un député en blouse. Il lui manquait un musulman de Pontarlier. Il l'a.
La France est alors en prise avec la fondation de son régime républicain unificateur et avec l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus, tandis que la querelle sur la séparation de l'Église et de l'État connaît une accalmie temporaire après de vives altercations entre partisans d'une France laïque et conservateurs catholiques. Philippe Grenier va s'attirer les foudres de ses électeurs de Pontarlier, berceau de l'absinthe, en défendant une taxe sur l'alcool pour financer une réforme de l'armée destinée à renforcer la défense nationale face à l'Allemagne, un projet qui signe la fin de sa carrière politique. Ce député marginal, représenté nu dans une baignoire au milieu de la Chambre des députés pour ses ablutions rituelles, en couverture du petit journal, est à l'époque considéré comme un épisode chamarré du folklore parlementaire. L'islam est pourtant une des principales religions présentes dans le précaré français depuis le 19e siècle, comme le rappelle Rabert Hachi dans ses travaux sur la laïcité appliquée à l'Empire colonial. Car les croyants musulmans sont bien là, mais majoritairement dans les colonies. Lorsqu'advient finalement la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, son application dans les territoires de confession musulmane fait éclater les contradictions coloniales et républicaines. Si le principe républicain réclame l'application universelle de la laïcisation de la société à l'ensemble des territoires sous domination française, c'est-à-dire la liberté de conscience, le libre exercice du culte et la neutralité de l'État pour garder le contrôle sur les pratiques religieuses indigènes et préserver la domination coloniale, des adaptations locales sont inventées en Algérie. Le financement des religions, aussi bien musulmanes que catholiques, s'y poursuit et crée un islam officiel contre les confréries religieuses, reléguées à la marge jusqu'à l'indépendance en 1962. C'est dans ces zones d'exclusion de la religion autorisée que sont nés dans les années 30 les discours de contestation et paradoxalement la revendication de la séparation de l'Église et de l'État dans les colonies contre l'intervention d'État dans la sphère religieuse. Une velléité interventionniste qui pourrait se répéter sur le territoire français aujourd'hui dans les discussions de projets de loi sur le séparatisme et une loi de 1905 qui peine toujours à s'appliquer à la religion musulmane qu'elle touche pourtant depuis sa rédaction il y a aujourd'hui plus d'un siècle.
Et oui, il y a aujourd'hui plus d'un siècle, la loi de séparation des églises et de l'État. Merci beaucoup Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est en ligne en podcast sur le site France Culture, franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Piudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrin et Maïwenn Guizhou. Cette émission et les précédentes sont à écouter, à podcaster, la balade aux diffusions sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, le cours de l'histoire est toujours au vert. Le monde sous étiquette quand les explorateurs collectent la nature.